Les chevaux fantômes, Karen Glickson.
Partie 2 sur 2.
C'était un bel après-midi de l'arrière-saison. L'atmosphère était d'une douceur alanguie au-dessus des haies et des longs parterres de roses et de giroflées, et l'ombre des grands arbres s'étirait, légère et paisible sur les pelouses. Dans les bras de Cédric, Noni promenait son regard tout autour d'elle. Il se demanda si un enfant avait conscience du passage du temps et si elle se rendait compte que bien des événements s'étaient produits depuis la dernière fois qu'elle s'était trouvée dans ce jardin. « J'ai renvoyé Parker, » lui dit-il, en se dirigeant vers le garage. « Nous allons monter directement chez Madame Peavy. » Elle le regarda comme pour lui demander comment il se faisait qu'il connût si bien le chemin, mais elle ne dit rien. Dans l'escalier, il se dit qu'il rajeunissait de 10 ans à chacune de ses vieilles marches usées. Lorsqu'il franchit le seuil du logement de Madame Peavy, il en était arrivé à l'époque de Zophanie. Une toute petite vieille femme, assise devant les géraniums de sa fenêtre, essaya de se lever de son grand fauteuil en voyant entrer les deux visiteurs. Mais elle dut y renoncer, en devint plus petite encore et se mit à pleurer. Noni la regarda gentiment, mais ne prit pas le temps de lui adresser la parole. « Ne vous inquiétez pas, Madame Peavy, » dit Cédric. « Noni est guérie, et vous, comment vous portez-vous ? Nous aimerions bien entrer dans la salle des harnais. »«
Oh, monsieur, j'ai bien peur qu'il ne s'y trouve une énorme couche de poussière, » dit Madame Peavy. « Je ne suis pas retournée depuis la mort de mon petit-fils. J'avais un petit-fils, monsieur. »
« Je le sais bien, Madame Peavy, » dit Cédric, « et je suis désolé pour vous, mais ne vous inquiétez pas de la poussière. »«
Peavy mettait la clé de l'autre côté de la porte, » dit Noni. « Il réussissait à la faire tourner. Emporte-moi dans la grande salle, oncle Cédric. »«
Oui, Noni, » dit Cédric. Il ouvrit la porte. Il huma la pièce avant de la voir, puis l'odorat et la vue se combinèrent pour lui faire percevoir un spectacle à la fois humble et digne qui l'accueillait paisiblement. La salle était vaste et basse de plafond. Elle s'étendait sur toute la surface de la maison et elle était éclairée par 2 fenêtres à l'est et 2 à l'ouest. Tout était recouvert de poussière. La vieille femme avait certainement été en dessous de la vérité en déclarant qu'elle n'était pas entrée depuis la mort de Billy. La fine couche de poussière devait dater de l'époque du vieux cocher. C'était si joli à voir que pendant quelques instants, il en oublia le but de sa venue et resta immobile en contemplation. La douce lumière dorée de l'après-midi emplissait la salle vide et transformait en splendeur sa nudité et sa pauvreté. Les murs, blanchis à la chaux, prenaient l'éclat de l'albâtre et le vieux plafond de bois le lustre du métal. Tout le long de 2 des murs, des harnais et des selles étaient accrochés à des patères et à des crochets. Il y avait là des attelles et des licous, des tabliers et des brides, des sangles et des étriers. Il y avait des jeux de harnais simples et doubles, des harnais pour attelage à 2 et à 4, certains d'entre eux montés sur cuivre ou même ornés d'armoiries sur les œillères. Il y avait des selles de chasse, de course et des selles d'amazone. Cédric était assez ignorant en matière de sellerie. Il n'avait pas souvenir d'être jamais monté dans un véhicule tiré par un cheval. Il regarda tous ces objets et constata que s'ils étaient maintenant moisis et fendillés, ils avaient dû être très beaux autrefois, car ils étaient faits de cuir et de métaux nobles, et ils avaient été travaillés par des mains soigneuses et patientes. Les deux autres murs étaient ornés de gravures représentant des chevaux, seuls ou en groupe, dans des attitudes magnifiques, au galop, sautant des barrières, cabriolant devant des phaétons, déambulant au pas devant des calèches ou transportant des dames dans leurs robes à traîne. C'étaient de vieilles gravures. Tout comme les autres objets de la salle, elles avaient été confectionnées avec goût et comme eux, elles étaient maintenant fanées et tachées. Parfois, le verre de l'encadrement était fêlé ou même entièrement cassé. Il avait conscience de se trouver dans le royaume du Billy. Cette salle avait été habitée par des gens qui pensaient et qui parlaient chevaux, et pour qui les chevaux étaient mêlés à leur satisfaction intime comme à leurs idéaux suprêmes. Billy, lui-même, fils d'entraîneur et petit-fils de cocher, dernier rejeton sans doute d'une lignée d'hommes de cheval et d'éleveurs qui remontait jusqu'aux époques les plus reculées, avait été le fidèle héritier de ce monde de chevaux de la vieille Angleterre qui était en passe de disparaître. Petit gardien silencieux d'une des dernières réserves négligées et oubliées, il avait fait ressusciter ce monde dans toute sa gloire devant les yeux de sa petite amie, l'enfant de l'ère de l'automobile. Noni avait exigé d'être descendue à terre. Il se tenait maintenant debout, comme Cédric lui-même, inspectant la salle autour d'elle avec un orgueil tendre et passionné. Elle réclama ensuite d'être de nouveau portée pour présenter les gravures à son invité. Ils décidèrent d'un commun accord qu'elle se sentait assez forte pour s'installer à califourchon sur ses épaules. Et c'est ainsi qu'ils firent lentement le tour de la pièce. « Celui-ci, oncle Cédric, dit-elle, c'est le ranger qui a gagné la course de Longchamp. Celui-ci, c'est Boyard qui a gagné à Ascot. Celui-ci est le favori de la reine. Et celui-là, le favori du prince Albert. Là, c'est Robert le diable qui a gagné à Saint-Léger. Il a vraiment bien l'air d'un diable, pas vrai? Et voici Gladiateur. » qui a gagné le derby. Partout c'est écrit en dessous.
Mais Noni, tu ne sais pas lire, dit Cédric. Comment sais-tu tout cela?
Billy savait lire, dit Noni. C'est lui qui m'a tout expliqué. Et regarde!
S'exclama-t-elle dans un soudain éclat de joie.
Voici le couronnement de la reine, le 28 juin 1838.
Elle devint grave et silencieuse pendant quelques instants.
« Je vais descendre, » déclara-t-elle. « Aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire la procession du couronnement. »
Cédric regarda tout autour de la salle. Il ne s'y trouvait ni armoire, ni coffre, rien d'autre qu'une corbeille pleine de pinces à linge dans un coin et quelques bouteilles vides. Il s'était cru près du but. Et voilà qu'il se retrouvait sur le sol nu de cette grande pièce avec le sentiment d'être victime de la triste maladresse des grandes personnes. Où pouvaient bien se trouver les objets que la baguette magique de Billy avait su exalter et transformer au point de leur faire figurer la procession royale? Il y avait là un vieux fauteuil, dont le rembourrage perçait à travers les déchirures de la housse en lambeaux. Regarde, Noni, dit-il, je vais t'installer dans ce fauteuil et puis tu me donneras des ordres.
Non, dit Noni, je ne veux pas m'asseoir dans un fauteuil.
Pourquoi pas? Demanda-t-il. Si nous organisons une course, ce sera le fauteuil du juge et le juge, c'est toi. Et si nous organisons le cortège du couronnement? Là, il s'interrompit. Incertain de ce que serait dans ce cas le rôle de Noni.
Je serai le bon Dieu, déclara Noni d'une voix claire, qui regarde du haut du ciel.
Billy m'a dit que Dieu voyait tous les chevaux. »
Elle paraissait toute petite dans son grand fauteuil, mais elle s'y tenait comme sur un trône.
« Ouvre les portes de l'écurie !» ordonna-t-elle, « et laisse sortir les chevaux !»«
Oui, ma chérie, » dit-il. Au hasard, et craignant de mal faire, il descendit une gravure et l'appuya contre le mur.
« Non, oncle Cédric !» dit Noni. « Pas Ormond !»«
Celui-là, Zéodone, qui a gagné le Grand National !»
Zéodone était effectivement accroché au mur, debout sur ses pattes de derrière, un vaillant jockey sur son cou. Noni reprit.
« Tu ne les aurais jamais trouvées toutes seules, les écuries, n'est-ce pas, oncle Cédric ? Billy, lui, les a trouvées toutes seules. Et il a fallu qu'il grimpe sur la selle d'Amazon du cheval pour les atteindre. »
Lorsqu'il eut descendu la gravure, une ouverture carrée apparut dans le mur. Elle paraissait noire et profonde.
« Ils sont là-dedans !» dit Noni.
Dans cette petite niche se trouvait une pile de boîtes, grandes et petites. Il les descendit une par une, et lorsqu'il en eut descendu trois ou quatre, il commença à deviner ce qu'il était en train de déplacer. Toutes ces boîtes étaient faites avec art, soit en cuir, soit en velours, avec des fermoirs dorés, mais elles étaient moisies et craquelées. Il lui fut ordonné de les installer toutes par terre et de les ouvrir. Elles étaient garnies de satin aux teintes pâlies. Mais les bijoux qui reposaient sur le tissu défraîchi brillaient de centaines de sourires éclatants et de tout leur feu radieux.
« As-tu déjà vu des chevaux aussi brillants, oncle Cédric ?» demanda joyeusement Noni. « Billy et moi, nous les avons lavés avec une petite éponge et nous les avons fait briller avec une peau de chamois qui avait appartenu au grand-père de Billy. Quand tu les mets en rang l'un derrière l'autre, ils vont d'un mur à l'autre. »
Il y avait là des bagues montées avec des diamants, des émeraudes, des rubis et des saphirs. Il y avait des broches composées comme des bouquets, des corbeilles de fleurs, des arabesques ou des étoiles. Il y avait des bracelets, des pendentifs, des clips. 5 coffrets contenaient des colliers ou de grands bijoux dont les pierres, pour une raison ou pour une autre, avaient été desserties et s'amoncelaient en vrac. Les fils de 2 colliers de perles, l'un d'eux très long, l'autre plus court, et composé de perles rosées incroyablement grosses, étaient tous les deux soit cassés, soit usés, de sorte que les perles roulaient doucement les unes contre les autres quand on déplaçait le coffret. Il y avait des boucles d'oreilles en perles et de longs pendants d'oreilles en diamants. Il y avait 3 tiares, la plus grande toute sertie de diamants et d'aspect absolument royal. Le rayonnement des pierres taillées et le doux éclat des perles remplirent le cœur de l'artiste d'un sentiment d'adoration humble et profond, ainsi que de simple gratitude devant les belles choses de ce monde. Pendant quelques instants, il se tint immobile, contemplant l'étalage des bijoux et choisissant tantôt l'un, tantôt l'autre, selon ce qui lui paraissait le plus beau. Puis il se dit:
c'est donc cela, et Dieu seul sait ce qui s'est passé ici.
Après avoir préparé leur fuite avec tant de soin, les amants ont-ils dû se hâter de partir pour échapper à la vengeance du mari? Ou bien l'arrière-arrière-arrière-grand-père Georges les aurait rattrapés avant leur départ, et vais-je dans ce cas découvrir des squelettes sous le plancher? Dans son fauteuil, Noni était satisfaite de l'impression que les écuries avaient produite sur son jeune oncle. Elle lui accorda une minute d'adoration muette, puis elle lui enjoignit de se mettre à l'ouvrage. Obéissant à ses ordres, il se mit à 4 pattes pour disposer le cortège. La longue procession devait se dérouler du mur à son fauteuil et il devait commencer par le premier rang. En prenant forme sous ses doigts, elle se faisait de plus en plus magnifique et vers la fin, le carrosse de la reine elle-même était constitué. En tête, devant tous les autres dignitaires, se plaçait Monsieur Lee, haut connétable de Westminster. Monsieur Lee était fait d'un grand sceau en agate taillé aux armes de la famille. Il pouvait se lever et se comportait avec la plus parfaite dignité. Puis venait un magnifique escadron de gardes du corps, représenté par les plus gros rubis du collier. Après eux, les chasseurs royaux en vert à l'aide des colliers et des ornements en émeraude, les albardiers de la garde sur des chevaux blancs, étaient tous en diamant. Puis venait enfin le carrosse de Sa Majesté, la grande tiare brillante tirée par 6 paires de pendants d'oreilles, les plus petits en avant, les plus lourds et les plus longs le plus près du carrosse. « Et maintenant, dit Noni, installe la reine dans son carrosse. N'est-ce pas qu'elle est belle, tout en blanc ? C'est moi, tu sais, en réalité. Billy disait que c'était vraiment moi. » Avec le plus grand soin, Cédric posa l'énorme diamant au centre du demi-cercle formé par la tiare. Il se rappelait qu'il avait entendu parler de ce diamant qui avait été acheté 100 ans plus tôt à un maharaja. Derrière le carrosse défilait un régiment composé des perles du long collier.
« Lève-toi, oncle Cédric !» ordonna Noni. « Et regarde la procession !»
Il se leva, tenta de secouer la poussière de son pantalon, y renonça et considéra la procession. Le regard de Noni suivit le sien. Son visage était calme et rose de bonheur.
« Dis quelque chose, oncle Cédric » demanda-t-elle, d'une voix douce de ravissement.
« C'est comme la caverne d'Aladin, Noni, » dit-il. Au son de ses propres paroles, il se rappela sa sœur et leur conversation à l'hôtel, et il devint songeur. « Un gros rubis de Hollande, » se dit-il, « à monter en bracelet, et puis tout ceci dans sa propre salle des harnais. Et hélas, pauvre Annabelle !»
« Non, oncle Cédric, » dit Noni, « tu ne devrais pas dire que c'est comme la caverne d'Aladin, alors que c'est exactement comme un couronnement. »«
Ma chérie, » dit-il, « c'est bien ce que je viens de dire. C'est réellement un couronnement, c'est ce qui le rend si précieux et si passionnant. » Mais il peut se trouver des gens pour dire que cela ressemble un peu à la caverne d'Aladin.
Oui, bien sûr, dit Noni.
Après un instant, elle poursuivit. Quand nous aurons terminé, tu les remettras tous à leur place et tu remettras Zéodone au mur pour former la porte de l'écurie. N'est-ce pas, oncle Cédric? Pour que personne ne puisse les trouver.
Oui, Noni, dit-il.
Et il ajouta après un instant. « Et alors, est-ce que ce ne sera pas comme si Billy était toujours là ?» Elle resta silencieuse.
« Non, » dit-elle enfin, « pas tout à fait. Mais d'ici quelque temps, »
elle marqua une pause d'une ou deux secondes.
« D'ici quelque temps, » reprit-elle d'une voix ferme et sonore, « je serai tout à fait guérie. Alors, Billy reviendra et nous serons tous les deux réunis. Pour de bon. »